Deux mots sur le mur d'images, là. Ça, c'est quelque chose dont vous êtes fier, je crois. Hein.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Parce que tout est gentil. Il n'y a rien de dégueu. Il n'y a rien de méchant. J'ai repeint une fois. Et pendant 8 jours, j'ai vu l'angoisse. Je me suis dit, putain, ils m'aiment plus, les gamins. Puis, plaf, ça recommence.
Alors là, maintenant, je touche plus.
Il y en a que vous préférez, là. Quelles sont celles que vous...
Bah, je sais pas.
On est bien entre curieux.
Il y en a une qui était très jolie. Ici, cogite une âme slave.
Sur RTL.
Je suis le poinçonneur des lilas.
Gainsbourg, le seul habitant de Paris qui est content qu'on graffe et qu'on dessine sur sa maison. Quelle coolitude. Ouais. Bonjour Emmanuel Guilcher.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Quelle joie de vous accueillir au micro de la curiosité. Vous êtes directrice adjointe de l'antenne de France 2, autrice de biographie. Avec vous, on va parcourir ce Paris de Serge Gainsbourg. On commence avec un lieu et un jour qui vont faire basculer en fait la carrière de Serge Gainsbourg. Nous sommes le 29 mars 1959 au 1315 rue Cognac-G. Nous sommes dans quel quartier de Paris ?
Alors déjà, c'est le siège de la télévision française, hein, ce sont les studios de la toute balbutiante télévision, mais à l'époque, presque toutes les émissions sont en direct, et donc il s'apprête à faire sa première prestation télévisée, sous la houlette de Michel Arnaud, qui l'a découvert. Il a beaucoup ramé avant d'en arriver là, Serge Gainsbourg. En fait, il a déjà 30 ans, il a enfoui ses désirs de scène, parce qu'il est très timide, donc il voulait être peintre, il a passé 13 ans avec les pinceaux, et là, bon, il est projeté dans la lumière, il a un trac fou évidemment, et donc c'est sa première prestation avec le poinçonneur des lilas.
Oui, le Cognac-G, on est tout près, bord de Seine, pas très loin des Champs-Élysées. Et effectivement, c'était le siège de la télé. J'ai eu le bonheur d'y travailler. C'était un dédale, c'était un vrai labyrinthe.
Ah, mais vous êtes si vieux que ça ?
Oui, je suis si vieux que ça. J'aime bien
comme
vous
Michel Drucker.
J'aime bien vous tendre. Oui, alors pas tout à fait aussi, mais j'aime bien tendre à Sidonie des perches pour qu'elle me vanne. Celle-là, elle l'a tout de suite saisie. Hein, ça ne m'étonne pas. Donc, il s'apprête à jouer en direct, c'est ce que vous nous avez dit, et à chanter le poinçonneur des lilas. On l'écoute.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest.
Vous nous disiez, Emmanuel Guilcher, que c'est Michel Arnaud, donc qui est animatrice et chanteuse aussi, qui présente Serge Gainsbourg. Et il faut dire comment elle le présente. Parce que c'est... aujourd'hui, on ferait plein, on n'oserait plus faire un lancement comme ça.
Elle dit, j'ai longtemps cru qu'il était muet, mais vous allez voir, il a un talent fou. Parce qu'en fait, il faut raconter, Michel Arnaud, elle a un peu disparu de la mémoire collective, mais à l'époque, c'est le pendant blond du Juliette Gréco. C'est une ravissante jeune femme qui ressemble beaucoup à Sidonie d'ailleurs, et qui est considérée comme l'intellectuelle de la chanson. Elle interprète Ferré, Brel, etc. Et elle est au cabaret Miller Larsouille, où débute Serge Gainsbourg en tant que pianiste, guitariste. Il se cache, hein, il ne veut pas se montrer. Et un soir, avec son mari, qui dirige le cabaret, Francis Claude, ils vont raccompagner Gainsbourg chez lui, dans sa chambre de bonne avenue Bugeaud, chez ses parents, parce qu'il veut leur montrer les dessins, ses gribouillages. Et là, elle voit qu'il a en cachette, il a quelques chansons, pas tant en cachette que ça, d'ailleurs, parce qu'il a déjà passé le concours de la SACEM, il a déjà écrit 15 chansons, mais il n'ose pas. Et là, elle voit que c'est une mine d'or, donc elle lui commande, ça donnera les recettes de l'amour fou, ça donnera d'autres chansons de ce type, mais surtout, son mari va le pousser, lui, à être interprète, alors qu'effectivement, il est pétrifié par le trac et il n'ose pas, lui, sauter le pas pour monter sur scène.
Emmanuel Guilcher, vous publiez le Paris de Gainsbourg, c'est aux éditions Alexandrine. Allez, une autre adresse ô combien importante, le 5 bis rue de Verneuil. Alors on est à Saint-Germain-des-Prés, on est dans ce quartier de Paris. Avec qui visite-t-il cette maison pour la première fois ?
Alors à la fin des années 60, il a déjà une longue vie derrière lui. Hein. Mmh. Il a eu deux mariages, une première épouse, une deuxième qui est une grande bourgeoise. Il disait à l'époque d'ailleurs, je suis snob, j'habite dans le 16e et je me fais les ongles. Mais au fond de lui, il est ce qu'on dirait aujourd'hui un bourgeois bohème. Et son père, et en fait, il est retourné vivre chez ses parents. Donc très très régulièrement, il retourne vivre chez ses parents. Mmh. C'est un fils à maman, hein, maman juive, bien sûr, juive russe. Ça, ouais. Et puis donc il a une petite période où il se cherche encore, et il va à la Cité internationale des artistes pendant 2 ans. Hein. Il est vraiment comme un artiste. Il se met dans cette résidence là. Mais le père en a un peu marre et il dit maintenant il serait temps qu'il ait sa maison à lui-même. Ouais. Et donc il trouve cette maison. Et à l'époque, il a une idylle passionnée avec Brigitte Bardot. Donc c'est avec Brigitte Bardot Bordeaux, qu'il visite la rue de Verneuil. Et en sortant, elle dit, elle hurle. La légende veut qu'elle ait hurlé dans la rue, c'est vendu. Et évidemment, l'agent immobilier a tout de suite dit banco.
Mais c'est pas avec Brigitte Bardot qu'il va vivre dans cette fameuse petite maison de Saint-Germain, 5 bis rue de Verneuil, avec une autre femme, une grande artiste. On vous racontera dans un instant sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Viens, petite fille, dans mon comic strip.
Il paraît que ma gueule, c'est burinée, marquée par les, non, ça, les outrages.
Vous avez une gueule, c'est indéniable, mais vous, ça vous semblerait intéressant d'être quand même beaucoup plus dominé, beaucoup, beaucoup moins indépendant.
Ce qui m'intéresse, justement, c'est d'être téléguisé, d'être un objet.
Ça fait
RTL.
Mais alors, quand vous faites une chanson avec une chanteuse ou avec une comédienne, ouais, qui s'invente chanteuse.
Alors, c'est elle la marionnette. C'est moi qui suis le grand-père de Pinocchio.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis libre, je n'ai pas de patron, j'ai un bonheur. Mais j'ai perdu la notion du bonheur.
Gainsbourg qui philosophe dans cette interview, Gainsbourg et sa liberté. Et nous, on découvre le pari de Serge Gainsbourg avec Emmanuelle Guilcher, directrice adjointe de l'antenne de France 2 et autrice de biographie. Donc on était au 5 bis rue de Verneuil, qui va rester sa maison pendant des décennies. Vous nous l'avez raconté, il la visite d'abord avec Brigitte Bardot, c'est pas mal pour faire une visite immobilière.
Pour inaugurer.
Voilà, c'est, oui, voilà. Et elle ressort en disant c'est vendu, et sauf que c'est pas elle qui va y vivre. Qui va vivre dans cette maison avec Gainsbourg?
Alors, évidemment, Jane Birkin pendant 12 ans. Et au départ de la rencontre avec Jane Birkin, ils font des travaux dans la maison. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on appelle ça un hôtel particulier. Mais en fait, c'est une toute petite maison qui fait 150 mètres carrés. Donc, c'est vraiment un écrin. Il y a très peu de pièces. Et donc, il va y habiter avec Jane Birkin, sa fille Kate, qui a un an. Et puis ensuite, Charlotte et la chienne. Et ça sera très difficile pour tout le monde de vivre dans ce petit espace. D'abord parce que Gainsbourg, comme dit souvent Jane Birkin, moi j'adore l'univers des autres, mais c'est vrai qu'elle a vécu dans l'univers d'un homme assez solitaire qui avait construit une sorte d'antre qui ressemblait à un studio, à un musée aussi, avec toutes les tentures noires partout, des grands tableaux, des sculptures qui effrayaient les enfants quand ils allaient aux toilettes la nuit. C'était pas vraiment... Et en même temps, c'était la maison du bonheur parce qu'il adorait les enfants. Ça, c'était le côté sympathique de Serge Gainsbourg. Il était sans doute resté un enfant lui-même, donc il a vraiment élevé Kate comme sa propre fille, et évidemment on connaît l'amour qu'il a eu pour Charlotte.
Emmanuelle Guichard, on raconte avec vous comment Serge Gainsbourg a marqué Paris et comment Paris a marqué aussi Serge Gainsbourg. Avant de vivre cette idylle, 12 ans avec Jane Birkin, 5 bis rue de Verneuil, il y a eu la rencontre qui ne s'est pas très bien passée. Au début, il ne s'adore pas ces deux-là, mais c'est Paris qui va les réconcilier en quelque sorte.
Ah oui, absolument. C'est que effectivement, ça se passe en 1968. Gainsbourg, pour le coup, là, a 40 ans et c'est vraiment devenu une star. Et il doit tourner un film avec Pierre Grimblat, qui sera le père de l'Instit plus tard, et qui est un film autobiographique pour Grimblat. Il a pris Serge Gainsbourg comme héros et il engage une jeune comédienne pour jouer dans cette histoire d'amour. Et Serge Gainsbourg, avec son arrogance quand même, aimerait bien lui avoir Marisa Berenson, et on lui présente cette Jane Birkin qui est totalement inconnue pour lui, même si son film a eu la Palme d'Or à Cannes l'année d'avant. Pour lui, c'est vraiment ces personnes. Donc il est extrêmement désagréable, comme il savait le faire, et le début du tournage se passe très mal. Donc Pierre Grimblat se dit, ça va complètement foirer, parce que c'est une histoire d'amour, si les deux protagonistes se détestent, c'est terrifiant. Et elle est bourrée de trac, elle parle à peine français, et donc il organise un dîner entre eux chez Maxime, donc ce restaurant mythique de Paris, que d'ailleurs Gainsbourg chantera aussi, et il les laisse tout seuls. Et là, évidemment, la magie opère, parce que on sait bien que Jane Birkin, elle est charmante, elle est adorable, elle est très bien éduquée, donc il se retrouve aussi sur quelque chose. Elle appartient à l'aristocratie anglaise. Sa mère est une comédienne de théâtre d'Oxford, du théâtre oxfordien, et donc le charme opère et ils ne vont plus jamais se quitter. Et surtout, le premier soir, il lui fait faire le parcours Gainsbourg, qui passe des lieux magiques type Rasputin, mais qui vont aussi dans le glauque, qui l'emmène à Pigalle, dans le cabaret de Transformers, où il a débuté, et puis ça se termine à l'hôtel Hilton où il s'endort sous, et elle se retrouve toute seule dans une chambre où on l'a pris pour la dernière petite copine qu'il avait ramenée pour la nuit.
On a justement un extrait, une archive, Jane Birkin qui raconte.
La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé c'était pas son visage vraiment, c'était son façon d'être, j'ai trouvé horrible. Mais ça, c'était sa façon de... Il n'avait pas de courtoisie ou de gentillesse, là, mais j'ai compris après ce que j'ai pris pour agressivité, c'était une grande timidité.
Emmanuel Guichère, Gainsbourg naît le 2 avril 1928. Il naît à Paris ?
Oui, absolument. Alors,
il va grandir où ?
Il est complètement parisien, authentiquement parisien. Il est né à l'Hôtel Dieu, donc on ne peut pas faire plus parisien. On est au centre de Paris. Il va aller, ses parents le ramènent d'abord près de Ménilmontant, où ils habitent. Hein. Ce sont des juifs russes qui sont dans l'est de Paris, dans ce quartier qu'a chanté Charles Trenet. Et puis, au bout de 4 ans, ils vont habiter à Pigalle. Donc, les parents sont tous les deux musiciens. Le père est pianiste de bar. Ils sont dans une petite rue à Pigalle, à l'abri du bouillonnement nocturne de ce Paris des années folles. C'est la rue Chaptal, hein. Donc la rue Chaptal, c'est là que le destin va frapper. C'est la rue où il y a la SACEM, hein. Il sera un des plus grands sociétaires de la SACEM. Et c'est la rue aussi où il y a le Hot Jazz Club de France, donc qui a été fondé par Django Reinhardt et qui a comme parrain Louis Armstrong et Boris Vian.
Donc il est nourri au jazz de toute son enfance.
Il est nourri
dans son appartement
même.
Son père aime beaucoup le classique, Scarlatti, Bach, bien sûr, et aussi les jazz bands américains comme Cole Porter. Et puis pour son boulot, hein, c'est alimentaire, pianiste de jazz, il est obligé aussi d'apprendre les chansons à la mode, Bert Silva, Fernandel, Maurice Chevalier, Fréhel, Damia, alors qu'il regarde quand même avec un peu de condescendance, mais il va baigner dans cette atmosphère-là de cette époque.
C'est drôle, Serge Gainsbourg, chaque fois que vous venez à Discorama, c'est à peu près une fois par an, j'ai l'impression que vous venez comme chez le médecin.
Oui, je suis un malade incurable.
Thomas Hugues.
Ah, incurable sûrement, malade, je ne crois pas.
Sidonie Bonnec.
J'écris des chansons difficiles, on dit que je suis intellectuel. J'écris des chansons faciles, on dit que je sacrifie au commercial. Je ne fiche pas la paix, quoi. Je cherche des noises.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur RTL.
Gainsbourg dans l'émission Discorama. Paris raconte Serge Gainsbourg et Serge Gainsbourg raconte aussi, dessine le Paris qu'on aime et qu'on continue d'aimer aujourd'hui. D'ailleurs, ces deux-là sont absolument indissociables. C'est ce que vous nous racontez, Emmanuel Guichère. Vous êtes autrice de biographie et directrice adjointe de l'antenne de France 2. Et alors, j'ai découvert quelque chose en lisant votre livre Le Paris de Gainsbourg, c'est que c'est chez Dali, Salvador Dali, le grand maître espagnol, qu'il va avoir un coup de foudre pour Saint-Germain-des-Prés.
Oui, parce qu'à l'époque, il croit encore qu'il va devenir peintre. Il a sa première femme, hein, qu'on a un peu oubliée, qui s'appelle Lise Levitsky, qu'il a rencontrée à l'Académie de peinture, à l'Académie Montmartre. Et elle travaille avec un poète surréaliste qui entasse chez lui des tableaux de Serge Dali. Donc, du coup, ils ont les clés.
Vous avez dit Serge Dali, c'est joli.
Oui, Salvador Dali, oui. C'est un lapsus révélateur. Et donc, sans doute pour se faire mousser auprès de son petit ami, elle lui dit je vais te faire visiter l'appartement de Dali. Et là, il ne faut pas que visiter. D'ailleurs, ils y restent plusieurs jours. Il se vautre dans sa salle de bain, dans son lit. Il dorme dans son lit qui est recouvert d'astracan, où il y a des tentures noires partout. Et c'est là dont on pense qu'effectivement, Serge Gainsbourg a été inspiré ensuite pour le décorum, je dirais presque, de la rue de Verneuil, et qui est juste à deux pas d'ailleurs de la rue de l'université. Donc il tombe amoureux d'un quartier, il tombe amoureux du surréalisme, et il tombe amoureux aussi d'un décor subjugant, excentrique, à la Dali.
Quelles écoles, quelles études fait-il ? Est-ce qu'il a un côté touche-à-tout, Serge Gainsbourg ?
Alors, il a effectivement un côté touche-à-tout. C'est aussi pour ça qu'il a été reconnu dans son talent que tardivement, parce qu'en France, les touche-à-tout sont rarement acceptés. C'est un très bon élève jusqu'à la guerre. Après, effectivement, on peut comprendre, le traumatisme de la guerre fait qu'il tombe malade, il laisse un peu tomber les études, ça devient un enfant un peu rebelle, donc il va aller au brillant lycée Condorcet, mais il passera jamais le bac. Pour faire plaisir à ses parents, il s'inscrit aux Beaux-Arts, mais en section architecture, qui lui plaît pas du tout. Et puis finalement, il va ensuite s'essayer à la peinture. Il met 13 ans avant d'abandonner cette vocation. Donc, effectivement, c'est pas un bon élève, mais c'est quand même un génie créatif. Depuis, il a quand même écrit 600 chansons. Et ça, on ne peut pas nier qu'il marquera effectivement l'histoire de la chanson française. Il est à la fois contemporain et en même temps totalement patrimonial.
Dans la carrière d'un artiste comme ça, il y a toujours un moment où les choses basculent, le destin bascule et vous fait des bonnes surprises. Il va s'arranger pour rencontrer, enfin il l'a provoqué aussi ce destin, pour rencontrer Juliette Gréco, c'est la muse de Saint-Germain-des-Prés. Comment il fait pour essayer de la rencontrer ? Est-ce que ça va marcher la première fois ?
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Gainsbourg, effectivement, il a inspiré beaucoup les femmes, hein, dans sa carrière, et pas que Brigitte Bardot, et de toutes les générations. On commençait par Michel Arnault, et puis il y aura Jane Birkin, bien sûr, et Catherine Sauvage, et d'autres beaucoup moins connues. Juliette Gréco, quand on a 20 ans à Saint-Germain-des-Prés, on ne rêve que d'écrire pour Juliette Gréco. Au début, il est timide, il essaye d'aller à l'entrée des artistes, des cabarets dans lesquels elle se produit, et puis il n'ose pas. Il lui a écrit une chanson terrible, Je broyais du noir, hein, c'est sa période quand même assez pessimiste. Ouais. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant la Javanaise, Juliette Gréco, il lui a déjà écrit plusieurs chansons, hein, dont L'amour à la papa, Les amours délaissés. C'est une de ses découvreuses. On dira qu'elle va même écrire un disque qui s'appelle Gréco, interprète Serge Gainsbourg. Donc elle va l'aider dans sa carrière, comme l'a aidé aussi Boris Vian.
Et donc il lui écrira effectivement la Javanaise. On écoute un extrait de la version de Juliette Gréco.
En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson.
C'est aussi l'histoire d'une nuit qu'il faut raconter, Emmanuel Guilcher, à propos de cette chanson.
Ah oui, c'est une histoire mythique, hein, parce que effectivement, Juliette Gréco, qui est comme ça une femme un peu mangeuse d'hommes, le fait venir à son domicile, rue de Verneuil. Il n'y a pas de hasard. Il passe la soirée. Alors ça a été immortalisé par le biopic de Joan Sfar de manière merveilleuse, mm-hmm, par Anna Mouglaglis. On voit cette scène fabuleuse où il passe la soirée, il essaye d'interpréter au piano, il lui chante des chansons, ils boivent de l'alcool, et puis il est quand même toujours tétanisé par elle. Donc il rentre chez lui se coucher, et c'est le lendemain qu'il lui apporte la javanaise sur un plateau. Cette chanson qui n'aura pas un grand succès au départ, mais qui sera celle qui va rapporter le plus d'argent à ses héritiers, et reprise par des tas de chanteuses, y compris à l'étranger, et par Serge Gainsbourg lui-même.
Et c'est à cette époque aussi Emmanuel Guilcher qui change de peau, il va choisir ce prénom Serge. Pourquoi ?
Alors, on ne sait pas exactement. On pense que c'est très lié à la guerre. Il a un passage pendant la guerre où il va être éducateur dans une institution pour les orphelins de la Shoah, et où le patron de l'institution, qui s'appelle Serge Pludermacher, donc qui a donné d'ailleurs naissance à un grand artiste, un grand chef d'orchestre, avait ce prénom, et on pense que c'est une des raisons pour lesquelles il veut s'appeler Serge.
Merci beaucoup. Merci. Emmanuel Guilcher, pour ce voyage dans Paris. Publier Le Paris de Gainsbourg, c'est aux éditions Alexandrine. À bientôt.
À bientôt.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.